spider can. Spins a web any size, catches seeds just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est L'Heure est Grave et on se retrouve cette semaine entre ados au corps qui change, qui évolue et qui se développe pour le meilleur et pour le pire. Avec nous, le super-héros du quotidien, le vengeur de la veuve et de l'orphelin, qui tisse méticuleusement sa toile à travers les tours de cette immense cité urbaine qu'on appelle la vie. Et en plus, quand on l'appelle, ça rime avec Marvel. Raphaël, bonsoir Raphaël.
Bonsoir Gaspard.
Et avec nous également un nouveau sur nos ondes, aussi attendu dans notre micro que le lutin masqué et l'homme poisson rouge dans le prochain Avengers, un passionné d'animation qui animera passionnément cette émission à base d'anecdotes, de blagues bien senties et de rototo dans le micro. Florian, bonsoir.
Non, ça, c'est
Florian.
Moi, le rototo.
Bonsoir.
Et cette semaine, on se retrouve pour parler du super-héros qui ne grimpe pas qu'aux arbres et préfère engloutir la grande pomme, de l'adolescent à la peau grasse qui bombarde son entourage de fluides arachnéens gluants. Cette semaine, on parle de Spider-Man de Sam Raimi, sorti en France le 12 juin 2002. Une date clé pour toi, Raphaël.
Bah oui, puisque le 12 juin 2002, c'est deux jours avant la date de la mort de ma mère. Et du coup, c'est quelque chose que je fête chaque année en regardant Spider-Man.
Sam Raimi, il est né le 23 octobre 1953. C'est un réalisateur, producteur et scénariste de cinéma et de télévision américain. Il est passionné depuis son plus jeune par le cinéma. Il décide rapidement de consacrer d'ailleurs ses études aux arts dramatiques et à la fac il rencontre l'acteur Bruce Campbell, rien à voir avec les boîtes de conserve, dont il devient très proche et avec lequel il partage un amour inconditionnel du cinéma burlesque. Il se passionne également pour le cinéma fantastique et quelques années plus tard se lance dans la réalisation de son premier film Evil Dead où il donne le premier rôle à son ami Bruce Campbell, justement rien à voir avec les boîtes de conserve. Le film remporte alors un grand succès et devient culte dans le monde du cinéma d'horreur, engendrera d'ailleurs deux suites. Mais bon, il désire pas être catégorisé en tant que réalisateur de films d'horreur, il s'essaie d'ailleurs à d'autres genres. En 95, il réalise le western Mort ou Vif. En 99, la comédie Pour l'amour du jeu. Mais le méga carton de sa mère, la pute, viendra au début des années 2000 avec l'adaptation de la franchise Spider-Man, dont il réalise les trois volets en 2002, 2004 et 2007. On lui doit également Jusqu'en enfer en 2009 et Le monde fantastique d'Oz en 2013.
Alors bonjour Florian. Florian, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
Ça m'a plu de le revoir en fait. Ça m'a fait bien plaisir.
Tu l'avais déjà vu?
Je l'avais vu, ouais, quand il était sorti.
T'as joué dedans en plus?
Ouais. J'ai joué dedans, oui. Du coup, je me suis enquillé les deux autres. J'ai fait le Spider-Man à ton.
Ah ouais.
Donc je me suis enquillé le The Amazing Spider-Man de Mark Webb derrière et Spider-Man Homecoming parce que je voulais voir la différence de traitement.
Okay. Mark Webb qui est celui qui a inventé Internet.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il s'appelle Mark Webb, mais en fait, ça s'entend pas quand on le prononce, mais c'est W-E-B-B. Web. Un nom difficile à porter.
Mais du coup, donc toi, tu t'es fait tous les Spider-Man, et donc est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être le meilleur? Ou je peux le dire moi?
Ouais,
c'est clairement le meilleur.
Alors,
il y a quand même des points dont on va parler après.
Tobey Maguire en premier.
Je vois pas du tout où est le problème.
Pardon, je voulais juste revenir sur le Homecoming et tout ça. J'ai trouvé autant le Amazing Spider-Man nul à yèche, parce que l'acteur principal, autant j'ai rien contre lui, mais je trouve qu'il joue pas bien là-dedans. Mais les Homecoming étaient sympas, je trouve qu'il y avait un petit truc...
Mais surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que, bon, je fais rapidement un résumé, on a eu le droit en 10 ans à 3 franchises différentes de Spider-Man, parce que c'est une licence que s'est partagée Sony, Marvel, Disney, tout ça, et qui à chaque fois a dû être entretenue par la réalisation de différents films. Donc on a eu les 3 de Sam Raimi, puis en plus il y a eu les 2 de Mark Webb, et maintenant il y a les 2 avec Tom Holland, qui font partie des Marvel.
Est-ce que c'est pas avec ça d'ailleurs que Marvel lance un petit peu sa toute première exploitation de sa licence?
Non, parce que je viens de dire justement qu'ils n'avaient pas la licence.
Mais c'est Marvel.
Non, c'était Sony à l'époque qui avait
la licence. Ah oui, et ils étaient obligés de faire les films sinon ils perdaient les droits.
Oui, mais c'est quand même produit par Marvel le premier.
Oui, entre autres. Mais
donc ce que tu dis, Raphaël, c'est quand même en partie vrai. C'est important dans l'histoire de Marvel, ce film.
Voilà, merci. Et je suis bien d'accord parce que, en fait, voilà, toi, Florian, t'es là pour témoigner des abus que je suis Gaspard qui
me fait la porte. Je dis juste, dans ce cas-là, on se calme tout de suite. Que c'était pas en tout cas dans une logique qu'avait encore développé Marvel qui était de créer son fameux MCU quoi.
Alors parce que anecdote, j'ai regardé l'autre jour les 15 premières minutes de Aquadude.
Aquaman.
Aquabed. Et c'était
horrible.
Merde, oh, c'est un enfer.
Et toi?
Pardon. Oui, donc moi, ce que j'ai pensé de ce film, ça fait plaisir de le revoir. Je me souviens d'être allé le voir au ciné et à l'époque, c'était genre, oh putain.
Tu venais de perdre ta mère en plus. Donc
ouais,
ça devait être un peu bizarre.
Non, mais c'était c'est hyper cool de le revoir parce qu'il a une manière de traiter le film de super-héros qui est complètement différente aussi de
ce qu'on voit aujourd'hui.
Genre, il y a un truc qui m'a choqué, c'est l'absence de beaucoup de scènes d'action. T'en as très très peu. Ça tourne que autour de Peter Parker.
Déjà, c'est un film qui perd pas de temps. Il fait 1h55 comparé aux 3h qu'on se tape aujourd'hui.
T'as aucun plan que tu pourrais retirer dans le sens où t'as pas de truc en trop ou je sais pas quoi.
C'est hyper
fin. Après, c'est un peu mou, un peu lent. Tobey Maguire, c'est une patate, mais il fait zizir. Enfin, je sais pas, c'est un truc de l'enfance.
Mais je suis d'accord entièrement avec toi sur le côté Tobey Maguire, c'est un peu une patate.
Mais en même temps, j'aime que ce soit une patate.
C'est pas encore le sommet, puisque dans le 2, il y a la séquence où il fait Raindrops Keep Falling. Coming Home, qui est horrible. Non, mais et le 3. Pire, c'est dans le 3 quand il fait le Dark Spidey, quoi. Ouais. Qui est horrible.
Mais ça, on en parlera dans mes recommandations, j'ai un truc à vous dire.
Ça fait mal. Mais moi, je suis entièrement d'accord. C'est, je trouve que c'est un film. Et j'étais vachement surpris de voir l'efficacité du truc. Genre, il n'y a pas une seconde à perdre. Et surtout, ce qui est dingue, et c'est ce que je disais à Flo hors antenne, c'est que tout se raconte uniquement par l'image. En fait, dès qu'il y a une info à avoir, elle est jamais dite par un personnage. C'est constamment par l'image. C'est, on y reviendra, mais genre, quand il se coupe, l'autre, il remarque la coupure. Mais à aucun moment, il va redire. En fait, tu comprends parce qu'il l'a montré.
Quand
et donc,
coupe,
c'est vraiment genre
quand
que de la mise en scène pendant deux heures, quoi.
Quand même, ils sont cédés de boulettes for my Valentine.
Exactement.
Quand il met ses chaussures compensées.
Et surtout, est-ce que, bon, on parle de Spider-Man. Est-ce qu'on peut tout de suite parler du film qui a comme BO Nickelback?
Ouais, alors c'est quand même problématique.
Ça fait mal quand même, Nickelback.
On est dans une.
C'est Nickelback qui fait la musique de fin. Ouais, moi, on était devant le film, j'étais en mode genre putain, c'est trop bien, le film se termine, Nickelback. Oh mon dieu!
Alors, autant la musique de début et le thème de Spider-Man est, je pense, un des meilleurs qui a été fait.
Spider-Man.
C'est hyper, hyper bien fait. J'ai oublié quel est le nom du mec qui fait la musique, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, et un autre point, juste pardon, que je voulais souligner, c'est si vous avez vu des Marvel, un truc qu'ils essayent de faire et qui en général ils n'arrivent pas trop à faire et c'est un peu gênant, c'est l'humour forcé tout le temps. T'as tout le temps des vannes, c'est tout le temps censé être ironique ou je sais pas quoi, mais un coup sur deux ça marche pas. T'as pas une vanne dans ce film. Quand ils essaient de faire des vannes, c'est vraiment. C'est le genre de vanne du genre, t'as la meuf qui lui dit tu vas aller au cinéma avec moi. Elle fait ouais, après on ira prendre des glaces.
Non, si, moi je suis pas d'accord, je trouve que t'as beaucoup de vannes et bon, qui sont déjà qui anticipent l'humour un peu méta, post-moderne, mais genre quand il va au match de catch, on en reviendra, mais il arrive avec sa tenue qui est pas du tout Spider-Man et qui veut se faire appeler l'araignée humaine et pas du tout Spider-Man. Et c'est parce qu'il y a un mec qui prononce mal son nom qui va devoir se taper comme ça.
Ouais, mais c'est pas placé sous le.
Alors, non, mais c'est drôle.
C'est drôle, mais c'est pas placé sous la forme d'humour. J'ai trouvé que c'est un film qui est très sérieux.
Ouais,
je suis assez d'accord sur le truc de l'humour et sur l'humour des MCU maintenant, où c'est une espèce d'humour. Ça se retrouve même dans Star Wars en fait, parce que c'est tous les mêmes les mêmes écrivains. Et du coup, bah en fait, c'est plus drôle parce que la pique, tu l'attends tout le temps.
Oui, maintenant c'est un peu forcément.
Et c'est vrai qu'effectivement, le truc de.
Je trouve qu'il y a des fois où c'est genre, t'as vraiment des séquences où t'attends un truc pour relever un petit peu. Mentalement, quand t'as tant de mecs qui est en train de faire ses élucubrations religieuses, tu dis allez, lance un truc et tout. Et puis non, ça cut tout.
On en parle. Est-ce que Flo, tu peux rapidement nous faire un pitch de Spider-Man?
C'est un loser qui devient stylé.
C'est pas faux.
Voilà.
C'est pas faux.
Alors, c'est un peu le même thème que American Pie.
Le même thème que à peu près tous les
Marvel. Mais comme dans La Liste de Schindler aussi, c'est un peu le même thème. Oui. C'est un mec qui est un peu nul qui devient vachement stylé.
Excuse-moi, La Liste de Schindler, c'est un winner qui devient encore plus stylé. Pardon, le mec a quand même réussi. C'est un loser un peu magnifique. Le mec a quand même genre des pouvoirs. Voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté à ton résumé. Parce que c'est quand même. C'est pas genre Billy qui va apprendre à faire l'amour. C'est Billy qui va apprendre à faire l'amour parce qu'il y a une araignée qui l'a mordu.
Maintenant qu'on a fait un petit pitch, c'est peut-être le moment d'attaquer le film. Et nous faisons la découverte de Peter Parker, un orphelin new-yorkais. Peter Parker est un orphelin new-yorkais élevé par sa tante May,
Uncle Ben's.
Et son oncle, donc, qui est en promotion dans tous les rayons du Queens à New York.
C'est juste un vieil orphelin dans un. Et c'est genre son seul ami, c'est sa boîte de riz. C'est son seul bien. Oh,
eh ben, dis donc, cette vanne-là, putain, on l'attendait pas. Il est donc un orphelin un peu loser qui est tous les matins en retard pour choper son bus. Ouais. Heureusement, ce matin-là, le bus s'arrête et on fait alors la découverte de toute sa classe.
Ouais, de toute sa classe qui a 40 ans.
Oui.
C'est quand même. Et lui, c'est le. Enfin, ils ont tous 40. Enfin, c'est juste. C'est hallucinant cette manière qu'ils ont quand il faut filmer des lycéens. C'est tu prends des mecs qui ont minimum 35 ans.
Je crois surtout qu'il y a James Franco, donc qui est son meilleur ami, Harry Osborn, qui jouait dans Freaks and Geeks un ado 10 ans auparavant et qui continue de jouer un ado. Mais bon, ça dérange personne.
Dis donc, trop relou le CPE là. Effectivement, il nous casse bien les pieds.
Et que penses-tu du président Bush?
Et je ne suis pas en âge de voter, mais évidemment, d'un point de vue économique, son programme fait sens. Il est donc en retard. Il n'est pas en retard pour n'importe quoi, puisqu'aujourd'hui, c'est classe verte.
Oui, ils vont visiter un laboratoire.
Ah oui, alors, ils vont visiter un laboratoire qui en plus, a le plus grand microscope du monde.
Ouais,
et surtout, un laboratoire qui est spécialisé dans quoi?
Les araignées.
Oui.
Les araignées chimiquement, enfin génétiquement modifiées, n'est-ce pas?
Putain, alors, les fameuses.
Les fameuses, on les connaît toutes.
Elles sont bien évidemment connues, puisque... Oui. Partout dans le monde, la science fait ça, puisque c'est hyper utile.
Et partout dans le monde, les élèves de terminale vont visiter les fameux laboratoires.
Très clairement, moi, les seules classes que j'ai fait, on est allé visiter, je sais pas, la manière dont ils faisaient les fromages à côté ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas.
Et t'as été piqué par un fromage et depuis tu es cheese man.
je pue énormément. Cheese man. Ah, trop
donc,
dégueu.
Ils vont visiter ce laboratoire. Peter Parker, qui est donc un journaliste pour le.
Un aspirant journaliste.
Aspirant journaliste. pour la
dit cheese.
Pour la Gazette du lycée, il prend une photo de Mary Jane, qui est finalement son énorme crush, énorme en rapport à ce qu'elle a devant elle.
Un futur brillant, exactement.
Une SP.
Oui, je parlais de ses boobs.
Ah, pardon.
Et finalement, au moment de prendre la photo, il est piqué quand même par une araignée. Une araignée génétiquement modifiée, comme tu disais, Flo. Et alors là, quel est le très bon réflexe à avoir quand on est piqué par une araignée génétiquement modifiée pendant une classe verte ?
Uriner dessus. Principalement. C'est d'ailleurs ce qu'a fait quelqu'un d'autre dans la cantine un peu plus tard, hein, puisqu'il y a une flaque d'urine par terre.
Et là, il y a Peter Parker qui sort sa bite là.
Hein. Ça, il a déjà des fièvres, il commence à halluciner.
Non, mais surtout, il se passe un truc dingue. Il est piqué par une araignée, genre, je sais pas, nucléaire. Il dit rien.
Ouais, c'est...
Il dit rien, le mec.
Et puis surtout, quand t'es piqué, moi-même, même si c'est un moustique, je fais ah, alors, je commence à gratter, à pester et en parler à tout le monde.
On recherche une araignée. Non, mais on est quand même dans une visite où les gens ont dit il y a une araignée qui a disparu. Il est piqué par une araignée. Et il fait oh, non, il y a rien. Mary Jane, t'es trop bonne. Enfin, il s'en va.
Et là, ça va être un petit peu.
Ah bah, il rentre à la maison et le soleil a un peu tapé sur sa tête. Non,
là, il va y avoir des fièvres. Hein. Ah, oui. Là, il a pas l'air bien. Il transpire et tout. Il sent pas bien. Il va se coucher sans dîner.
Ah oui, comme tous les ados, il va vite s'enfermer dans sa chambre parce que je suis malade.
Mais alors ça, c'est un petit peu l'origin story normal de Spider-Man. Et du coup, le matin, il se réveille après avoir été piqué. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il est sexy. Il est hot. Il est dans un fameux plan miroir qui est magnifique.
Ouais, il est sexy as fuck.
Il n'a plus besoin de lunettes.
Non, il n'a plus besoin de lunettes. Il a les pecs et tout.
Mais il le dit pas à sa mutuelle. Comme ça, il continue de toucher l'argent.
Je vais avoir besoin de deux paires cette année. Et en fait, d'acheter du crack.
Pour moi et mon oncle Ben.
Non, en fait, d'acheter pas du crack.
Il a plus
besoin de lunettes. Mon inscription au concours de maths.
Il est devenu ultra stocose. Et c'est là où, en fait, on voit l'intelligence de Sam Raimi, je trouve, de montrer aussi que c'est un film sur l'adolescence. C'est-à-dire qu'on le voit lui dans sa chambre, il laisse pas sa tante rentrer. Il dit genre,
il y a mon corps qui change.
Il y a du sperme partout derrière.
C'est ça,
c'est ça qui est bon.
Des photos de Mary Jane collées partout.
C'est ça. T'es piqué par une araignée, mettons qu'elle arrive à transformer, c'est pas ça qui se passe, tu te mets à être poilu,
ouais,
t'as d'autres pattes qui poussent, tu viens de
ouais, c'est genre la mouche quoi.
Ah, c'est exactement ça. Mon corps change. Non, après il est au fond de la classe toute l'année, hein, personne lui parle.
Lui il devient beau gosse, il arrive cette fois-ci à rattraper le bus.
Ouais.
Il rattrape le bus et il découvre qu'il a les mains qui collent.
Ouais.
Comme tous les adolescents.
Oh merde.
Ah merde, du PQ.
Trop dégueu, Peter. Il se fait vanner par tout le monde. Donc, il arrive au bahut. Et là, en fait, on se rend compte qu'au bahut, ça va un petit peu changer pour lui. Puisque le mec qui lui cassait les couilles et qui est
Flash, le boyfriend de Mary Jane.
Enfin, le père de Mary Jane, très clairement, il pourrait. Qui lui pète les couilles. Et donc, ça va se transformer en tape.
Bah,
alors,
déjà,
il sauve Mary Jane.
Il sauve. Alors, bon, déjà ouais. on parlera du fait qu'un ado est attiré par la Mary Jane. Mais ensuite, je pense que c'est pas une blague en plus de la part de Stan Lee. Mais en plus, il la sauve au dernier moment où elle s'apprête à se péter la gueule.
Sur l'urine.
Oui. Ça aurait été drôle qu'il essaie de le rattraper, il lui fait encore plus mal, tu sais.
Bah, oh merde, ton épaule. Oh
en fait, coup du lapin et Jane est morte.
C'est ce qui se passe, je crois, vraiment dans les comics Spider-Man. C'est que, pas dans cette scène-là, mais genre ce qu'on verra après, plus tard, le pont, quand il rattrape en même temps le bus, ça, c'est qu'il va briser les vertèbres de Mary Jane et la tuer. Donc là, il aurait pu le faire direct, un bon coup du lapin. Schlar.
Il a des réflexes, il fait mal aux gens.
Non, mais tu sais, c'est normal, c'est une araignée, c'est un chasseur maintenant. On le retrouve dans un casier, il a traîné un étudiant, il lui a croqué la cervicale.
Il a Elia Wood, tu sais, qui est entouré dans un truc. Il arrive à sauver Mary-Jane au dernier moment. Sans faire exprès, il provoque une baston avec Flash. Donc déjà, qui s'appelle Flash ?
Ouais, c'est clair.
Du coup, c'est Flash. Flash veut se battre avec Peter Parker, qui est une sorte de petite merde, hein, faut le dire, au lycée.
Ouais, c'est le bully de base, quoi.
C'est la grosse merde, c'est moi, en fait. Ils sont inspirés de ma biographie personnelle. Et
d'ailleurs...
Huitième tour, Flash m'a encore pété sur la gueule.
Cher journal.
Pour une fois, il m'a regardé dans les yeux.
Comment ça aimer ça ? À suivre, trois petits points. Ouais, je reviendrai juste... C'est vrai que c'est le mec qui se fait victime, mais total. C'est-à-dire quand il arrivait dans le bus dans la première scène, le mec, t'avais pas une personne qui voulait que ça soit, et même le mec.
C'est avec... Forrest Gump.
Ouais, même avec le dentier, les mecs, là, ils voulaient même pas que ça soit à côté de lui. Bref, donc il casse la gueule à Flash. On se rend compte qu'il a une super force, super rapidité, tout ça. Et donc en plus cette super force, super rapidité, il va se décider à aller tester voir s'il a d'autres pouvoirs, parce qu'il rencontre quand même qu'il a un truc blanc qui coule du bras. C'est une boule d'araignée. Et du coup, il va le tester.
Non, surtout, ce qui est très drôle, c'est qu'il va le tester. Et ouais. En fait, il sait même plus pourquoi il a déclenché ce truc qui sort de son bras.
Shazam!
Et en fait, il fait genre des abracadabra. 3, 2, 1, vas-y. Ouais. Ça marche pas. Et finalement, il arrive à tisser une toile.
À faire le geste. Et c'est un peu le truc différent de la BD, parce que je crois que dans la BD, c'est un truc qu'il a construit lui-même. Il n'est pas capable de produire une toile, en fait. Et là, dans la série, il a quand même le mec. Outre le fait qu'il s'est fait mordre par l'araignée radioactive, depuis deux jours, du coup, il a des espèces de pustules sur les poignets.
Qu'il n'en parle pas autour de lui. Ouais. Il y a un moment, ça devient dangereux, quoi.
Toi aussi, hein, depuis que t'as du poil aux quéquettes, t'as des boules et tu peux tisser des toiles. Bah non, Peter, c'est bizarre ton truc. Et donc, après avoir testé ça, on a une espèce de coupure, on passe à un autre pan de l'histoire et on découvre donc Norman Osborn, le père de James Franco. Et qu'est-ce qu'il fait, Norman Osborn ?
Il travaille pour l'armée, ou le DOD, Department of Defense, et ils sont en train de préparer une espèce de...
La dernière mixtape avec Dr. Dre. Bienvenue de l'air, frère.
Pour envahir le Vietnam.
Et ils sont en train de se disputer avec le ministre de la Défense et le scientifique en chef qui n'est pas d'accord pour... faire un prototype
pour lancer le truc, ouais,
génétique,
parce que pour faire les tests humains, quoi.
Alors surtout, bon, on peut le dire tout de suite, voilà, il a une certaine pression de son conseil d'administration, une certaine pression de l'armée pour lancer ce truc.
Il va descendre sa femme, parce qu'il a plus de, ouais. Il a de la pression qu'il reçoit, mais lui, il a plus de pression donc forcément, c'est compliqué pour lui.
Surtout, je peux le dire tout de suite, c'est que il va tester l'expérience sur lui-même, et évidemment partir en cacahuète, il va tuer son laborantin, il va devenir complètement fou. Surtout, ma question, c'est que il est en train de travailler sur un processus pour l'armée. On découvrira plus tard quelle gueule il a, hein, c'est un bouffon vert. Ça ressemblait à ça, le prototype qu'il fabriquait pour l'armée. Genre, c'était un mec dans une combinaison vert qu'on appellerait le bouffon vert.
Oui, c'est exactement ce qu'on
veut. Quand
tu
verras la tête qu'il a ensuite, c'est-à-dire que c'était ça le projet pour l'armée. Genre, on va envahir l'Irak.
Les mecs vont voir les talibans, t'es...
Nous équiperons tous nos soldats de ce prototype et nous serons l'armée de la liberté contre l'axe du mal.
Non, mais c'est vrai.
D'ailleurs, on fait juste un stop très rapide sur Willem Dafoe.
Extraordinaire.
Est-ce qu'on a donné un script à Willem Dafoe ou est-ce qu'on tentait d'être taré sur le set?
D'ailleurs, du coup, Andy Serkis lui a tout volé.
Totalement.
Sur le plan où je deviens lui-même.
Ah ouais, bien sûr.
C'est complètement volé à Andy Serkis.
Sachant que Gollum et les deux tours est sorti 6 mois plus tard, donc en fait le mec avait en effet tout pipé. Ouais. Mais
il est top, c'est lui qui fait mieux.
Willem Dafoe, il est complètement dans un autre film. Je le trouve extraordinaire parce qu'on est quand même, ce que tu disais au début de l'émission, on est 15 ans avant le MCU, avant que ça soit cool. On est le premier film de super-héros depuis Batman, donc ça fait 10 ans à nouveau. Le mec, il y va, mais à fond, quoi.
Ah, il y va à fond.
Il est avec ses bras, il fait « Je suis le méchant !»
Ouais, à tel point que, bon, spoiler alert, quand lui, il sera plus là à la fin du film, dans le deuxième, ils vont quand même remettre des scènes avec lui.
Ah bah oui, parce que le mec est tellement bien, ouais.
Enfin, tu vas avoir des flashbacks et trucs, peut-être une version longue, je sais pas si t'as tout vu, mais t'as des scènes avec lui parce que le mec est tellement.
En POV blowjob.
Et donc, bon, après ces tests. On revient vers Peter qui se dit bon, avec mes nouveaux pouvoirs, peut-être que je vais me faire un peu de thune pour séduire Mary-Jane.
Ouais, parce qu'il découvre que Mary-Jane, en fait, elle sort donc avec Flash, il a une belle bagnole.
Mary-Jane, il lui fait des dialogues du genre oh, t'es vraiment le mec le plus mignon, et puis là d'un coup t'entends VOOM, un énorme moteur derrière, il fait excuse-moi Peter, il faut que j'aille me faire troncher par le mec de 40 ans.
Et puis elle sort, tu sais, genre il me faudrait tellement un mec comme toi, mais pas
jolie
toi,
voiture.
Donc, pour gagner de la thune, il décide d'aller faire un combat de gladiateur qui pourrait lui rapporter 3 000 $ s'il tient 3 minutes dans le ring. C'est son oncle Ben qui va l'amener. Et oncle Ben, bah quoi ?
C'est son oncle Ben qui va l'amener à la bibliothèque.
Ah oui,
parce qu'il me
va l'amener à se battre.
Écoute, oncle Ben, je vais me faire péter la gueule, tu m'accompagnes ? Moi, avec plaisir, mon fils.
Mais attends, faut que tu te battes, mon gars.
Mais t'as des grands pouvoirs et des grandes responsabilités, donc vas-y. Hein.
Donc, c'est un petit peu un message qu'il a à lui transmettre avant qu'il aille à la bibliothèque.
Merci de m'avoir
amené. Non, attends une minute, il faut qu'on se parle.
On peut se parler tout à l'heure ?
On peut se parler tout de suite, si tu me le permets.
De quoi tu veux qu'on parle ? Pourquoi maintenant ?
Parce qu'on ne se parle plus du tout depuis trop longtemps. Ta tante et moi ne savons plus qui tu es réellement. Tu es devenu un tire-au-flanc. Tu te livres à toutes sortes d'expériences bizarres tout seul dans ta chambre. Tu déclenches des bagarres au lycée.
Je n'ai pas déclenché cette bagarre, je te l'ai déjà dit.
En tout cas, tu l'as terminée, on dirait.
Et t'aurais préféré quoi ? Que je me défile ?
Non, non, il ne faut jamais se défiler, mais... Écoute, tu es en train de changer. Je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge.
Non, non, pas exactement.
Oh, Peter. Ce sont là les années où un gamin commence à se transformer en l'homme qu'il sera pour le reste de sa vie. Faut pas te transformer en n'importe qui. Ce type, ce Flash Thompson, a probablement mérité ce qui lui est arrivé. Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Est-ce que tu as peur que je me transforme en une espèce de criminel ? Arrête de t'en faire pour moi, d'accord ? Il m'arrive un truc nouveau. C'est moi que ça regarde. Mais je t'en prie, ne me sermonne pas.
Je n'essaie pas de te sermonner, je n'essaie pas de prêcher. Et je sais que je ne suis pas ton père.
Alors ne fais plus semblant de l'être.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et du coup, après s'être embrouillé avec son oncle, Peter décide d'aller au tournoi de catch. Et on peut juste, pardon, revenir sur cette réplique. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, qui est quand même un fondamental de Spider-Man, quoi. C'est quand même un truc qui va être dans tous les Spider-Man, où tu vas voir l'oncle qui va lui dire attention, on fait pas de la merde.
Et t'as même, c'est même surtout ce qui est extraordinaire, c'est dans les autres Spider-Man, voilà, où ils font la réplique sans pouvoir la dire, ouais, parce que du coup, elle appartient à ce, ouais, Spider-Man-là. Ouais.
Tu sais que beaucoup de pouvoirs
implique... Ça veut dire de faire des trucs bien. Ouais. Tu vu le film en 2002 parce que...
Tiens, regarde, je t'ai pris cette séquence d'un film qui n'a aucun rapport. Non, mais c'est quand même un truc assez important, et je sais pas si c'était dans le comics, je sais pas quoi, j'y connais rien au comics, mais voilà, c'est quand même un truc assez important. Bref, il va au tournoi, et là, c'est quoi un peu le pitch de ce tournoi ?
Bah alors, le pitch, il veut acheter sa voiture pour pouvoir draguer Mary Jane, et comme il a trouvé son petit déguisement, il l'a trouvé en regardant les trucs de
catch.
Les déguisements de catch, ouais, ouais, un truc ça, comme ça, de merde. Ah oui, ouais. Et du coup, il va participer... à cette
en gros,
ce combat.
$3,000 pour 3 minutes dans l'arène avec Bonesaw, avec un mec hardcore.
Et alors, qui anime le match de catch ? C'est Bruce Campbell, donc le mec Ash dans Evil Dead.
C'est lui ?
Bah oui, avec ses lunettes.
Putain, il a faté, hein.
Bah, il est devenu costaud, quoi. Ouais, déjà, il crie plus comme ça, mais en tout cas, il est là pour animer le truc et il fait « Alors, ce soir, on reçoit l'araignée humaine !» Et l'autre, c'est Spider-Man qui dit « Ah non, c'était l'homme araignée !» Et surtout,
non, en fait,
découvre...
c'est l'inverse, on découvre Spider-Man. Et Peter Parker dit mais non, moi c'est
oui c'est
humaine.
Ça pardon c'est le... excuse-moi oui c'est ça,
et c'est comme ça que Spider-Man va rester sur un peu une erreur, et
exactement,
et je retire du coup ce que je disais sur l'humour, en effet ça c'est plutôt marrant. Donc là évidemment Spider-Man il défonce le tronçonneur, sauf que bah il a pas tenu 3 minutes puisqu'il a explosé le tronçonneur en deux. Du coup le petit malin organisateur il dit bah non écoute t'auras pas 3000, moi je te donne 100 balles et estime-toi déjà heureux, fallait tenir 3 minutes si tu voulais les 3000.
Le mec est pas bon en maths quand même, hein, parce que ouais, il donne 100 balles au lieu de 1000 balles pour un tir de combat, genre le gars il est fait oh,
Peter n'est pas très bon en maths non plus, puisque lui il file 100 balles, il conteste pas plus que. Eh, mais ça se fait pas.
Je comprends pas pourquoi il lui pète pas la gueule. Genre, c'est Spider-Man. Il vient de montrer qu'il pouvait péter la gueule au tronçonneur en temps d'y aller.
Tu vois comment le mec ose, tu sais, genre il a explosé un mec qui était tellement fort et l'autre qui lui fait genre non, je te donnerai que 100 balles. Moi je me chierai dessus, je vais prendre tes 3000 balles, casse-toi, je veux plus te revoir quoi.
Tiens, c'est je t'ai mis les 6000 balles d'assurance de toute la boîte aussi.
C'est comme si tu disais à The Rock, s'il te plaît. Écoute, il y a un problème dans ton contrat, tu vas pas être payé ce qui était prévu. Mais tu veux mourir, gros. Tu vas mourir. Non, et du coup,
il se barre. Et sauf que là, Peter, il découvre, il assiste à une scène assez dingue, c'est qu'il y a quelqu'un
en partant.
Oui, ouais. C'est le trigger dramatique un petit
c'est
peu
ça,
de Spider-Man.
L'ironie dramatique du
exactement,
film.
Exactement. En partant de cet endroit où il a récupéré donc uniquement $100, il entend du raffut là, du bureau d'où il vient, et il voit sortir une espèce de cambrioleur qu'il laisse partir.
Blond peroxydé, je tiens à le dire.
Magnifique. Très Justin Bieber, ouh, Antoine
exactement,
Griezmann.
Ouais. Très Bruce Willis dans le cinquième élément.
Qu'il le laisse.
Pas faux.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Mais avec une moins bonne carrière.
Il était visionnaire, hein, c'est Bruce Willis. Et il le laisse passer, et en redescendant, il découvre que son oncle est mort.
Exactement.
Il a été abattu.
Une boîte de riz, il y a du riz partout dans la rue.
Oh, ah, what my rights, my rights.
Hey, what am I gonna do?
What am I gonna do with all this rice?
Et son oncle vient de se faire abattre par un type dans la rue. Alors, c'est le moment où Tobey Maguire nous sort son plus beau regard caméra, un des même les plus connus de l'histoire.
Oui. Alors, oui, ce
où
film
se bave
rempli de même d'ailleurs.
Ah, mais monstrueux.
Ouais, extraordinaire. Et
nous,
oui, Scientist Myself. C'est le moment où il se mord la lèvre avec de la bave et en pleurant. Qui est quand même. En fait, ce qui est ouf, c'est que Tobey Maguire, on lui disait, alors là, t'es très triste, ton oncle est mort, donc tu pleures. Il fait, ouais, pas de problème.
Mais que
alors que dans les films genre de Marvel après, c'est genre tu pleures et les mecs font ouais je vais te faire ça avec dignité mon gars, genre. Et là le mec il fait pas de problème, tu veux que je me chie dessus devant la caméra, je le fais mon gars, je suis un déglingo. Et donc il va se suivre un petit peu les policiers qui sont sur la trace de l'assassin d'Oncle Ben, tout ça pour se rendre compte, ironie tragique, que c'est qui?
Bah c'est le mec qui l'a laissé passer.
Et ben ouais, et donc là
dans une séquence très Blade Runner là, ouais, dans l'espèce, oui, de bâtiment, je me suis dit mais putain c'est Blade. En plus il a les cheveux peroxydés comme le méchant de Blade Runner.
Exactement,
et il enlève,
ouais,
son petit bonnet bonnet de hipster d'ailleurs, et il est là et genre c'est la séquence de Blade Runner avec l'éclairage de Blade Runner, c'est,
ouais,
tout Blade Runner, tu fais genre.
Et puis il lui dit de toute façon que tout ça ce sont que des larmes dans la pluie.
T'as tué Oncle Ben. J'ai vu des choses que jamais tu n'as vu. Non mais c'est pas ça dont je veux te parler. T'as tué mon oncle, enculé.
J'ai 857 ans et toi? Non mais il arrive à désarmer ce mec tragiquement, en fait, ironiquement, et je m'en souvenais pas, en fait. Ouais. Le mec tombe et se tue, et en fait, c'est hyper violent. Pour, c'est un truc que tu verrais plus aujourd'hui dans un des films de Marvel, je pense.
Ouais, là,
qui est un peu sage.
Il tue pas les gens.
Là, le mec, en fait, il est même pas encore un super-héros, il vient de buter un mec sans le vouloir, mais il assiste à la mort d'un type.
Et c'est vrai que l'obsession dans les autres Spider-Man de jamais tuer les ennemis.
Même dans les Batman.
Ouais.
Dans le Batman, il tue pas les gens, quoi. Et genre là, tu fais, bah, Spider-Man, Tobey Maguire, je tue un mec, pas de problème.
Bon, bref, il se retrouve totalement déboussolé, Peter, par la mort de son oncle, parce qu'il vient de se passer, il se souvient de son conseil, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il décide alors de fabriquer le costume officiel, hein. Il met un petit logo bleu d'ailleurs à côté pour mettre, c'est officiel, et il décide de jouer les super-héros et de péter la gueule à tous les méchants new-yorkais. Alors, c'est là où on a un petit montage,
et alors en parallèle du « Je fais le héros », il décroche un petit boulot au Daily Bagel. Alors c'est pas
chez Combini,
c'est Bagelstein.
C'est pas un sketch tous les jours du Daily Bagel là.
J'ai fait un Fast and Curious avec Spider-Man.
Tu peux enlever ton masque. Hey, pardon. Non, en gros, il est photographe pour le Daily Bagel avec le
Steve Jobs ou Blowjob.
Avec le, pour moi, le second meilleur acteur de ce film, qui est le je sais pas le
patron presse,
le rédac en chef, qui est un gros connard, qui était un gros connard dans les comics aussi, mais qui est je trouve très bien joué là-dedans, assez marrant.
Et qui est joué par
J.K. Simmons, ouais. Qui est le mec qui joue dans Whiplash, qui joue le
joue
chef
dans,
d'orchestre
dans Oz aussi.
Ouais,
dans
ouais.
Oz.
C'est lui.
Ouais. Il faisait des bons,
il joue bien le connard, quoi. Il est bien.
Hyper bien
il
le connard. Mais le connard, alors là, il joue le connard pour être un connard. Dans Whiplash, c'est le connard exigeant pour ton bien.
Ou pour ton bien, pour son bien, mais.
Oui, mais un peu ton bien aussi.
Je suis pas sûr.
C'est mixé. Et on a du coup ça, et en parallèle, on retrouve ça. C'est un petit peu les histoires qui se construisent. Encore autre chose de différent des Marvel, où là, c'est l'histoire du méchant qui se construit en parallèle et qui a autant d'importance.
Bien sûr.
Parce que là, Osborn, il subit une injustice terrible. Il va être évincé de sa société.
Il est évincé de sa propre boîte qui s'appelle donc Oscorp, comme on peut le savoir parce qu'il y a marqué Oscorp en énorme en bas de son immeuble.
Bonjour, c'est Élise Lucet, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... Non, je sais pas ce que vous voulez dire. Alors comme ça vous construisez des trucs militaires. Non mais donc il se fait virer par le conseil d'administration.
Il se fait virer de sa propre boîte.
Il dit je me vengerai.
Non mais surtout c'est assez dingue parce que c'est limite s'il leur dit je vous tuerai tous. Personne ne réagit. Il débarque quelques jours après pendant une sorte d'énorme carnaval.
Le Unity Day.
Unity Day, genre organisé. T'imagines, c'est comme si demain on avait genre Total et Areva qui organisaient un défilé dans la rue.
Le jour de la paix.
Avec tout le monde était en mode genre ouais, carrément.
Merci Total.
et donc tout le monde fait la teuf. Il y a des grands, c'est une sorte de carnaval géant. Donc Total est en train de trôner au-dessus de la ville, en train de nous regarder. Sauf que va débarquer.
Achète mon pétrole.
Débarque alors quelque chose dans l'air. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un oiseau. Qu'est-ce que c'est?
It's
le Green Goblin.
It's the Green Goblin. Donc un des plus grands méchants, je crois, de Spider-Man, le Green Goblin, qui vient foutre la merde. Et en fait, on comprend que le Green Goblin, c'est qui?
C'est
Norman.
Norman Osborn. Ouais. Osborn.
C'est Norman.
Abonne-toi.
Je fais des vidéos tout seul et maintenant je suis un père.
Je t'ai déjà parlé de mon chat.
Alors là, il tue en fait les mecs d'Oscorp. D'ailleurs, je remarque que t'en as un en fauteuil roulant qui tombe. Je me dis au moins il s'est pas fait mal puisqu'il s'en passe ses jambes. Et du coup, il tue les anciens actionnaires qui
l'ont viré. Il manque aussi de tuer son propre fils, ouais. qui est témoin de la scène.
Mais en fait, on sent que là, c'est le gobelin qui est fou, quoi, qui est pas le Norman normal, quoi.
On sent un peu que le film est en train de se mordre la queue dans ses propres incohérences.
Non, surtout, hein, mais il y a un truc qu'on remarque assez dingue, c'est que finalement, en fait, il y a Tobey Maguire, donc Peter Parker, qui est témoin de la scène en tant que photographe. Il est venu faire des photos pour le journal et il court. Pour enlever ses habits et devenir Spider-Man.
Ah merde, et là il est à poil.
En fait,
putain, merde.
Tu penses à tous les moments où dans le film.
Il est tout nu. Il commence
à
choper les enfants et les coller très près. Qu'est-ce que vous faites? Mais je le sauve. Non.
Est-ce que, deux questions. Est-ce que tu penses qu'il y a des moments où il n'est pas intervenu parce qu'il savait qu'il n'avait pas le costume sur lui? Ou il a dit bah tant pis.
Il se grille une clope.
Il y a mon costume qui sèche. Aujourd'hui, je peux rien faire.
Il a rétréci le costume. Au lavage, putain, fichier. Tente-moi, merde.
Très bonne vanne qu'on voit dans le Spider-Man 2 d'ailleurs, où ses caleçons sont devenus roses parce qu'il les lave au lavomatique. Et surtout, t'imagines le nombre de fois où ensuite il doit revenir sur ses pas pour ramasser ses vêtements qu'il a laissé tomber dans la rue ou pas?
Oui, parce que c'est très dramatique de lancer ses vêtements, mais après.
Il laisse tomber sa chemise, enfin j'imagine qu'il va pas non plus gâcher une chemise toutes les deux minutes, quoi.
Pop, 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 pop.
C'est à moi, non.
Bah, d'ailleurs, lâche ça, putain, le pronom. D'ailleurs, dans Homecoming.
Pas dessus, merci.
Dans Homecoming, il se change et il perd après ses habits.
Ah bah, je savais pas, tu vois.
Ouais, il perd ses habits et du coup, t'as une espèce de truc un peu débile comme ça où il pose son sac et le soir, il revient et bah, il y a plus ses affaires, quoi.
Et la grande vanne d'Homecoming, c'est que Tante May, elle est bonne. Alors tout le monde va se la taper. Merci Marvel.
Bref, en tout cas, Norman donc, commence à complètement péter des plombs parce que personne ne abonne à sa chaîne.
Faux.
Mais bon, il comprend surtout que finalement...
Est-ce que t'as déjà remarqué que les New Yorkais étaient des enculés? Faux.
Que la seule personne qui peut lui être nuisible, c'est Spider-Man. Spider-Man qui vient de sauver Mary-Jane, par exemple, pendant la fête de Unity Day. Il se dit que finalement, il faut capturer Spider-Man. Il arrive à le récupérer au local de la presse, là, au journal. Il arrive finalement à lui tendre un piège. Et c'est très intéressant parce qu'il a un petit deal à lui proposer.
Tu es une créature stupéfiante, l'araignée. Toi et moi ne sommes pas si différents.
Je ne suis pas comme toi.
Tu es un meurtrier.
C'est comme ça. Chacun son destin. J'ai choisi ma voie, tu as choisi celle du héros. Et les habitants de la ville t'ont trouvé amusant pendant quelque temps. Mais il est une chose qu'ils aiment plus encore qu'un héros. C'est voir un héros échouer, chuter, mourir au combat. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester. Pourquoi t'accrocher?
Parce que c'est juste.
Je vais te dire la vérité. Il y a 8 millions d'habitants dans cette ville. Cette gigantesque fourmilière humaine a un seul et unique objectif. Admirer et porter sur ses épaules les êtres exceptionnels. Toi et moi, nous sommes exceptionnels. Sache que je pourrais t'écraser comme un insecte sur le champ. Mais je vais te laisser le choix. Joins-toi à moi. Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. Ce que nous pourrions créer, mais nous pourrions aussi détruire, causer la mort d'innombrables innocents dans d'égoïstes combats encore et encore et encore, jusqu'à mourir tous deux. Est-ce là ce que tu veux?
Donc, pas de deal avec les voyous, et Spider-Man dit au Green Goblin d'aller se faire foutre. Et le lendemain, Peter croise dans...
Green Goblin.
Ça veut dire qu'au moment où il se barre, il fait « Bah non, de toute façon, je le ferai pas, t'es vraiment qu'une merde !» Mais je vais te buter, t'es con. Attends au moins 2 jours, je sais pas, mets un peu de construction dramatique dans ton jeu.
Je suis New York.
I am Big Apple.
Spider-Life Matter.
Et donc, le lendemain, Peter croise dans la rue Mary Jane et il est toujours éperdument amoureux de la fameuse Mary Jane.
Mais malheureusement, elle a le bon goût de sortir avec Osborn. C'est vraiment toujours... Elle était avec le mec le plus fort, avec le mec le plus riche. Elle a toujours pas pigé que lui, il est en love et qu'il est croque-love.
Il y a que les riches qui arrivent à avoir de la Mary Jane.
Ouais. Ou les cailles.
Ou les cailles. Parce que justement, elle est attaquée dans une ruelle, dans ce qui est quand même la scène la plus cliché du monde, genre en mode genre...
Une petite femme qui est dans la rue.
Il pleut, il fait nuit.
C'est on sent que Sam Raimi, pour le coup, il vient des années 90, donc de comment tu construis des méchants pas importants. Donc les méchants importants, tu les construis, mais les pas importants, c'est vraiment genre
je suis un voyou. Mais en même temps, je vais te violer.
Sauf qu'en même temps, elle est vachement bien construite la scène parce qu'on on suit en même temps que Mary Jane se fait attaquer. Peter Parker qui devient Spider-Man sur les toits, qui le suit cette aventure avant d'attaquer. Il arrive.
Comment il fait quand il veut porter un t-shirt pour pouvoir porter son podcast, son truc en dessous là?
Je sais pas, mais il a un. T'imagines, putain, j'ai pas mon t-shirt. Bon bah je suis désolé Mary Jane, ce soir tu vas te faire péter la gueule.
Tu sais, il regarde devant en disant ouf,
oh là là.
Non mais je pourrais y aller au moins.
Oh putain, ils sont 12 en plus. Oh là là.
Non, c'est l'uniforme. Spider-Man, il a un uniforme. Alors bon,
il arrive, il la sauve. Finalement, ce qui est très beau,
c'est qu'il a deux doigts à dire il la saute.
il la sauve. Le mieux, c'est qu'il a pas son masque. Ouais. Et vous remarquerez, il fait un petit genre pas de bourré
pour partir dans une petite ruelle comme
une
ça.
Une petite ruelle.
Et revenir
en emportant un des mecs avec lui, genre toi, je vais te faire les fesses.
Il remet son masque et là Flo, il arrive dans ce qu'on appelle communément une scène culte.
La fameuse scène culte où Spider-Man sort sa tub de son petit « Est-ce que je peux embrasser mon sober ?»
Alors en fait il descend, ils vont se faire le bisou, il descend en tête bêche, sauf que lui il descend un peu plus et il se retrouve en 6-9.
Ah bah Marteau, je
do that now.
Allez Maté, il y a un gif porno comme ça qui est extraordinaire. Le truc descend trop bas et finalement c'est la tub qui arrive au niveau de la bouche.
Il y a un gif porno, ouais. Hein, allez Maté, hein.
Sur un site de LOL.
Voilà. Je suis tombé dessus par hasard.
Et donc il y a cette fameuse scène où Mary Jane va demander à son sauveur de révéler son visage, qui va lui refuser, mais il va lui accepter un baiser.
Ce qui est dingue, c'est qu'elle a juste à tirer sur le masque. Ouais. Ça lui prend 2 secondes.
Ah bah voilà, Peter,
surtout,
bah je t'aime.
On peut se demander quand même.
Il y a aussi ça, je suis désolé, mais c'est là où il y a quand même des grosses incohérences, ou en tout cas des trucs qui relèvent que du dramatisme du film. C'est que quand le Green Goblin il endort juste avant, je suis désolé, on revient dessus, mais il endort Spider-Man, donc il l'a quand même à disposition pendant quelques heures, vu qu'après il fait nuit, et il se retrouve sur le toit. Et
quand
en fait,
Spider-Man se réveille,
il a pas regardé quoi.
Bah oui, quand Spider-Man se réveille, il a toujours son masque et il a mal au
fesses. Oui. Fermé ce rêve. En revanche, il a
baissé le pantalon.
Il a pu pas.
Oh, j'ai oublié de regarder sa tête.
Il lui a, bon, c'est pas grave. Tiens, il a juste piqué son froc. Il fait bah maintenant rentre chez toi, démerde-toi. Mais donc, les amours,
non,
ça
surtout,
va. Les
surtout
amours,
le pire,
ça...
elle roule une pelle finalement à Spider-Man. Ouais. Et c'est là où on peut quand même douter des capacités intellectuelles de Mary Jane, qui n'est pas foutue de reconnaître la voix du mec qui vit en face de chez elle depuis 20 ans.
Elle le sait pas, elle le sait pas, apparemment.
Mais elle est complètement con.
Avec qui elle a parlé il y a 30 secondes.
Mais oui.
Ouais, ça, c'est
avant de vivre l'aventure de sa vie, c'est-à-dire elle parle avec un mec, 30 secondes après elle refuse, elle a deux doigts de se faire violer, puis après elle assiste à
une. En plus, je suis pas con, il l'appelle pas Mary Jane en plus. Apparemment, elle sera en mode genre d'où tu connais mon nom.
Tu me suis, c'est ça.
Et ça, il y a ça dans les autres aussi.
T'imagines, pardon, elle doit être chez elle, elle doit voir le linge qui sèche en face. Le mec, il a mis son truc de Spider-Man à sécher sur le rebord de sa fenêtre.
Alors, toi aussi, t'es fan de Spider-Man?
Ouais, ouais, carrément.
C'est ça.
On dit qu'elle est con.
Il est vachement bien ton costume.
Merci.
Et du coup, les amours, ça a bien un temps, mais Spider-Man, il a un boulot et son boulot, c'est sauver des gens. Alors là, il doit sauver des gens d'un incendie, mais on se rend compte que cet incendie, en fait, c'est un moyen pour le Green Goblin de lui tendre un piège en lui disant écoute, tu n'as pas voulu de mon. Tu n'as pas voulu.
Il le retrouve à Notre-Dame, du coup.
Ouais, c'est ça. Bravo.
Il fait. Oh, mais non.
Oh, mais non. Désolé, papillon. Et qui lui tend un.
Je suis le gobelin vert.
Spider-Man lui dit qu'il refuse de le rejoindre. Il en profite, le gobelin vert est très, très mécontent, il lui coupe. Il fait tiens, petite égratignure.
Et, avec ces espèces de drones magiques, oui, là, qui sont des vifs d'or, en fait.
Oui, ouais, voilà, c'est des vifs d'or.
Crossover.
Et du coup, après, encore plus important qu'un incendie, il y a Thanksgiving. Bah, aux États-Unis, c'est très important.
Oui, exactement.
Donc, après avoir sauvé Zan,
Spider-Man s'en va, il revient à la maison où il y a sa tante May, il y a Harry, il y a Mary Jane.
Alors, là,
et il y a Papa Osborne.
Voilà, il y a Papa Osborne qui.
Drôle de réunion, quand même, hein, dans le scénario.
Je peux faire un petit point rapido. En fait, le truc, c'est que du coup, Spider-Man se barre vite de l'incendie pour arriver rapidement à Thanksgiving, qu'organisé par sa famille. Il arrive, il cache le maximum comme il peut son égratignure qui vient de se faire au bras.
Il y a autre chose avant.
Non, mais surtout, ce qu'on voit pas, c'est que le Green Goblin, donc, qui est joué par Harry Osborn, lui aussi doit se grouiller de rentrer à Thanksgiving. Ouais. Et lui, en revanche, il a l'air d'arriver.
Mais il est motorisé, il est en Uber.
Oh, ouais,
mais
il
est en Uber Fly.
L'autre, il est en Uber Fly. Enfin, genre, il arrive en deux secondes, quoi.
Il toque à la fenêtre. Mais excusez-moi, je veux rentrer.
Excusez-moi, j'étais sur le balcon. Non, mais du coup, Norman Osborn, il arrive l'air de rien. Et en revanche, Spider-Man, lui, il s'est grouillé comme un bâtard. C'est pas normal, c'est pas possible. C'est pas
non,
possible.
Mais ça, c'est New York, hein, tu sais, depuis qu'à Hidalgo, s'il y a des bouchons partout.
Avec
quoi.
Les voies sur berge.
C'est ça.
L'enfer.
Et donc, ce Thanksgiving se passe un peu mal puisque la tante May, elle a la bonne idée de taper sur la main de ce gourgandin de Norman, qui veut manger du clafoutis avant d'avoir dit les grâces. Et ça, le bouffon vert, il va s'en rappeler puisque le soir même, il décide d'attaquer.
Surtout,
il
s'est rendu compte que, en voyant la cicatrice de Spider-Man, que Peter Parker était Spider-Man.
Non, mais surtout, on a sauté une scène culte. Toi qui parlais tout à l'heure des choses qu'on voit que au visuel, il y a quand même la scène où ils entendent du bruit à l'étage, ils montent, la Spider-Man est au plafond, et à ce moment-là.
En train de se masturber.
Et à ce moment-là, Norman Osborn rentre est sur le point de sortir et la fameuse goutte, un peu à la Mission Impossible.
La fameuse goutte qui pèse, à mon avis, 9 litres.
Ouais.
Vu le
bruit. Et d'ailleurs, de la saucerie Racha. Hein,
voilà.
Pour aller avec le riz.
Sur mon Rio Clemens. C'est parfait.
Donc, il arrive à faire tomber sa goutte.
La dernière, c'est pour le caleçon.
Et Norman Osborn reconnaît, donc comprend finalement que Peter Parker est Spider-Man. Il décide de mettre son plan à exécution, d'aller kidnapper le soir même, plutôt de traumatiser Tante May.
Alors voilà,
il débarque chez elle.
Très rapidement,
il lui fait une sorte de. Voilà. Ouais, chevalier du Valkyrie qui arrive pour prendre ça dans ta gueule, quoi.
Très rapidement, on comprend qu'il dit je vais foutre la merde à Peter Parker parce que pour atteindre Spider-Man qui est trop fort, il faut taper dans Peter Parker. Donc il va faire peur à Tante May.
Il va débrancher la fibre chez lui.
Au point d'avoir une crise cardiaque, ce qui va permettre, quand elle va une scène à l'hôpital où on va voir que Mary Jane et Peter ils vont commencer à flirtouiller. Et puis ensuite il se dit pour taper encore plus fort, je vais enlever Mary Jane. Donc le gobelin vert enlève Mary Jane et il dit écoute petit héros, tu vas devoir faire un choix maintenant, sauver un tas d'innocents
ou alors remonter la courbe du chômage.
Non, c'est impossible.
Le choix est cornélien.
Ou sauver ta belle, celle que tu préfères. Donc
ma belle.
Bah les couilles des enfants.
Bella. Au nom de Bella.
Il doit faire ce choix horrible. Et finalement, comment il s'en sort, Flo?
Qui est fait dans un très beau plan, d'ailleurs. Il faut noter le magnifique plan complètement cheaté cadré sur les yeux du costume de Spider-Man, où dans chaque œil, il y a un reflet.
Non, mais
c'est un plan de storyboard qui est pas mal.
Sauf que c'est ça qui est assez dingue. Et c'est là où on reconnaît un peu faut le dire quand même, on en a pas assez parlé, mais du génie de Sam Raimi pendant tout le film, où c'est que par des idées visuelles que ça passe. Et que certes, ce plan est impossible et complètement cheaté, sauf que d'un coup, voir le regard de Spider-Man.
Tu comprends toute l'idée en un seul plan.
C'est un plan de comics en fait, où dans chaque œil, il a les deux possibilités.
Dans son troisième œil, il y a un gros grec, il a la dalle. Ah, je mets un otakos. Il a un bon otakos là qui flash.
Blindé. C'est le otakos challenge.
Blindé de viande, mon pote. Blindé. 5 euros.
Faut mettre poste bleu. À la fin. Poste bleu. Je vais sauver la femme et les enfants et après faut mettre poste bleu.
Et du coup, bah, il sauve tout le monde.
Il arrive à sauver tout le monde.
Et s'engage un petit peu le.
Surtout, faudrait quand même souligner la capacité de Mary Jane à se foutre dans la merde pendant ce film.
Oh Peter, viens m'aider, c'est je ça. Ne puis descendre non, cette corde ça. Sans toi.
Malheureusement, on n'ira jamais monter de ton.
Ouais, de ouf. Alors, la scène sous la pluie,
déception.
Pardon.
De ouf.
Ça pointe un peu.
Oui, bah, évidemment que ça pointe. Ouais, on est quand même là pour nourrir du geek. Hein.
Très rapidement, donc c'est le combat final qui s'engage entre le bouffon vert et Spider-Man. One to one. Les deux se découvrent. Spider-Man, on sait que c'est Peter. Norman, on sait que c'est le gobelin.
Se roule les pelles, la vie d'Adèle et compagnie.
Peter, il est clairement mis en faillite. Et au moment où. Peter arrive à reprendre un peu la main sur le méchant. Le méchant lui fait.
C'est ouf.
Et ça se termine là-dessus, quoi.
Attends, avant que tu me tues, tu te rends compte que lui.
T'as perdu toutes tes actions, non ? C'est la crise mondiale, quoi. Et du coup, il lui tend un piège, le gobelin, en lui disant : écoute, non, en fait, j'ai été rendu fou, aide-moi, tu es comme un fils pour moi. Il lui veut lui faire une fourbonnerie. Mais,
petit plan derrière avec le glider
qui monte
comme ça.
Avec des espèces de couteaux qui vont rentrer dans Peter.
Les glide bayonnettes, comme on les appelle.
Fameux, qu'il y avait pendant la guerre de sécession déjà.
Les fameuses, ouais.
Qui est assez dingue d'ailleurs. On comprend alors que Spider-Man se rend compte de ce qui se passe derrière lui parce que lui il a un sens assez dingue. Il saute par-dessus le truc qui arrive et là on voit un plan mais qui est typique genre de.
Oh no.
Non mais voilà, Evil Dead en fait. Ouais. Tu sais, genre, on a 50 plans en une seconde pour nous montrer que le truc arrive à une vitesse de dingue. On voit le plan sur l'œil de Norman Osborn et en revanche, d'un coup, il y a une petite blague de lui fait. Oh merde.
Ouais.
Et mais, paf, il se prend. Il se fait empaler.
Ça aurait pas marché avec quelqu'un d'autre que Willem Dafoe.
Je vois juste du génie de montage. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est extraordinairement bien monté cette séquence. Parce que ça peut paraître ridicule et en revanche, ça marche extraordinairement bien en fait.
Bah, c'est en même temps ridicule, ça fait en même temps pouffer quoi.
Ouais.
Enfin, c'est ça qui est cool, c'est que du coup, ça devient jubilatoire de le voir crever quoi. C'est
ouais, et tu conserves l'idée que bah, c'est que du comics, les gars. On est en train de se parler de mecs en tenue qui se battent.
Oui, concrètement, c'est un peu ridicule.
Pour de la Marie-Jeanne quoi.
Tout ça pour de la Marie-Jeanne. Et donc, on cut, on se retrouve à l'enterrement de Norman où
on comprend aussi que Harry Osborn a compris que c'était Spider-Man qui avait tué son père.
Ouais, donc
il nourrit une haine
jamais.
Incroyable.
Ça, c'est cut
numéro 2.
Il le dépose dans dans l'appartement là, dans le penthouse.
Il est magnifique ce plan avec d'ailleurs
avec le rideau là.
Ah ouais, c'est sublime ça.
Avec d'ailleurs Harry qui prend dans le tiroir un gun, c'est il fouille une fourchette. Viens là, enculé. Et du coup, bah c'est un peu la fin. Mary Jane embrasse Peter en lui disant en fait, c'est toi que j'aime, mais lui lui fait bah il se souvient de la phrase d'Oncle Ben et là il comprend le vrai meaning.
Et c'est là quand même que le film est assez extraordinaire et à nouveau on disait que tout passait purement par les idées visuelles et pas par les dialogues, c'est que là du coup, elle lui dit c'est toi que j'aime, il lui dit je ne peux pas t'aimer, nanana, il l'embrasse et là elle comprend. Parce qu'elle se souvient du bisou.
Eh oui.
Et là, elle comprend qu'en fait.
Elle se souvenait pas de la voix, elle se souvenait du
bisou. Non, mais
bisou,
c'est
quoi.
Ça. C'est là où elle est quand même un peu. Je pense qu'elle est un peu lente, en fait, Mary Jane. Et vraiment, elle.
Délire, c'était Spider-Man.
Et elle... Non, mais c'est extraordinaire. Elle se rend compte à ce moment-là, grâce au bisou. Bah, en fait, elle comprend que Peter, c'est Spider-Man. Et je crois qu'elle fasse pas, genre, dans le cimetière.
Oh putain, c'est Spider-Man.
En deux secondes.
Mais Harry, c'est lui qui a tué ton père. Oh délire. En deux secondes, ça résout tout le truc, quoi.
Harry sort un gun, il abat son ami d'enfance. Tante May, elle se fait éclater la gueule.
T'as le gouvernement.
American History, stack.
T'as le gouvernement qui va récupérer Peter, qui fait des expériences sur lui. Il l'a enfermé à vie, voilà.
À Guantanamo.
Spider-Man. Exactement.
Et c'est la fin de Spider-Man. C'était notre épisode sur Spider-Man. Je tends le micro à Florian pour lui demander ce que tu en as pensé finalement, du coup.
Alors, moi, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que c'était très cool à revoir parce que, bah, comme tous les films qu'on a vus à cette époque-là, c'est toujours sympa. Ça fait remonter plein de souvenirs. Et puis, il y a quand même énormément de scènes cultes. Et donc, moi, je me suis enquillé chaque film de chaque reboot de la saga Spider-Man.
À l'envers, en hongrois.
En hongrois. Non,
en faisant fouetter les pieds.
Exactement. Et non, et du coup, j'ai pu quand même constater.
Et bizarrement, j'ai kiffé moyen.
C'était pas top avec les sous-titres en chinois.
Ouais, là, c'était surtout les sous-titres étaient décalés. Ça a un peu niqué mon expérience de visionnage.
C'était bizarre. Et puis c'est le doublage canadien. Il y a quand même quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le mieux dans l'histoire des personnages et dans ce qui se passe. Il n'empêche que je crois que je dois un petit peu prendre la défense de The Amazing Spider-Man, puisqu'on en a parlé avant de commencer. De mon point de vue, par exemple, de graphiste, il y a quand même des choses très très stylées dans The Amazing Spider-Man. Les vues quand il devient Spider-Man, les vues quand il est Spider-Man, il y a quand même énormément de choses qui sont très cool. Où là, ça fait quand même très très cheap dans ce film. Et
il y a l'âge, hein, ça vit.
En fait, ouais, il y a l'âge, mais tu vois, par exemple, c'est la même époque où Titanic s'est sorti 2-3 ans avant, Matrix s'est sorti.
Avant.
Ouais, bah voilà, et Matrix s'est sorti 2 ans avant, c'est 99, ouais. 3 ans. Et
la Coupe du Monde, c'est 4 ans avant.
Ouais, bon, ouais. Et voilà. Et donc voilà, c'est. C'est le mieux au niveau de tout ce qui est récit, personnage et tout. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont un petit peu durs sur les autres.
Oui, non, mais tu loues les qualités de celui-là, mais tu expliques
que
les autres sont pas si nuls que ça, en fait.
Réaliste.
Il y a aussi à manger dans les autres, même si les autres sont vraiment pas. Enfin, c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, là, ça se voit que c'est cheap, que c'est le début, mais c'est aussi, voilà, c'est ça, c'est le début du
c'est
cinéma.
Un film qui a 17 ans quand même. Hein,
voilà, qui est vieux, mais ça se voit, quoi. Genre, les plans, quand ils sautent de toi, au tout début, il y a des espèces de plans vus du dessus où il passe.
On voit un type qui le tient, c'est qui court, qui est habillé en noir.
Ah, mais c'est fou, c'est une espèce
c'est
de,
moche, quoi.
De 3D, c'est un perso en 3D, ça se voit, les mouvements, ça se voit que c'est de la 3D, tout se voit, quoi.
Puis le début de la 3D, pas bien, quoi.
Mais du coup, c'est malin parce que.
En plus, il chante, il faut que tu respires. Ouais, c'est intense, supportable.
C'est moi, la guitare, quand il saute, c'est difficile, quoi.
Et toi, Raph, qu'est-ce que t'en as pensé?
Eh ben, écoute, moi, j'étais assez content de le revoir parce que c'est quand même les premiers films de super-héros à part les Iron Man, d'ailleurs, c'était assez.
Iron Man, c'est après, quand même.
6 ans après, mais t'as quand même ce truc de.
Non, parce qu'Iron Man, c'est le début du MCU.
Alors,
en
c'est
revanche.
Le début du MCU, mais tu vois, ils sont encore
on
sur des.
Encore, ouais.
Ok, comment. Alors, ça va mais, être ça le rythme, ça va être ça les blagues, etc. Mm-hmm. Là, c'est vraiment le tout début du début. Je sais même pas s'il y avait peut-être un MCU dans la tête de quelqu'un quelque part, mais je sais pas. En effet, comme tu dis, ça a quand même très vieilli. T'as 17 ans derrière. Graphiquement, c'est moche.
Ouais, c'est pas si moche que ça.
Non,
mais c'est codifié année 2000.
Alors, c'est codifié année 2000.
Ça se voit, quoi.
C'est Flash qui pète la gueule, quoi.
Moi, je les ai trouvés rigides. Les personnages dans leur manière de jouer, la manière dont c'est tourné, dont c'est filmé, c'est des plans très découpés, ça manque de la fluidité qu'on a après. Alors évidemment, on est en 2002, voilà. Sinon, c'est quand même très très cool. Pour parler tout simplement de ceux d'après, The Amazing Spider-Man, je parlerai pas dessus parce que quand je les ai regardés, j'étais assez affligé par la perf que j'ai vue, mais tu dis que graphiquement ça vaut le coup. Moi, je parlais de Homecoming pour le coup, que j'ai vu un peu en dilettante et j'ai trouvé ça assez frais, assez sympa. Je trouve que le nouveau, le petit jeune qu'ils ont mis est marrant. Ils ont des bonnes idées, ils ont un bon sentiment et surtout ils sont plus proches du Spider-Man qui a 15 ans, qui est un vrai ado. Parce que Spider-Man.
Ils avaient déjà essayé dans Amazing Spider-Man. Justement.
Ils avaient déjà essayé, mais.
Qui ne marche pas dans Amazing Spider-Man, mais ça c'est vrai.
Ouais,
ça c'est vrai.
Parce que ça marche pas parce que Tom Holland.
Parce qu'Andrew Garfield il a 25 ans
ouais,
quand
pardon,
il le fait.
Oui, mais Tobey Maguire aussi il est
oui,
vieux.
Non, mais
enfin,
ouais, ridicule, oui,
non,
mais
ridicule,
oui. Et c'est vrai que dans The Amazing Spider-Man ça marche pas. Les personnages tu sais qu'ils sont plus vieux, ça marche pas. Et...
Oui,
et
puis surtout, il est en fait, à la limite, dans celui qu'on vient de voir, c'est un geek. Dans Amazing Spider-Man, c'est un petit connard, t'as envie de le gifler.
Mais c'est un geek aussi en fait, hein, pour l'avoir revu, c'est
ouais.
un geek et en vrai,
ouais,
il y a les mêmes posters de Einstein dans le fond de sa chambre,
ouais,
il y a
ouais,
machin, il arrive à faire ses.
Ouais, mais c'est un relou, enfin tu vois, c'est un relou. Ce qui était bien, je trouve, dans le Homecoming, c'est que c'est un petit normal, pas trop loser, un peu
normal
marrant.
Normal fait des vidéos, tu
ouais.
veux dire.
Un peu normal fait des vidéos, mais voilà, donc assez cool Homecoming. Et c'était très sympa de revoir ça. Gaspard.
Moi je suis. Pas aussi calé en film de super-héros que vous parce que enfin à chaque fois je les vois je suis complètement perdu, genre j'ai vu Black Panther et puis je savais pas du tout ce qui se passait.
Wakanda Forever.
Juste non, je trouve que ce qui est assez dingue c'est que même si c'est pas un film qui était inscrit, enfin clairement même c'était on peut le dire, c'était pas, les mecs ils ont sorti ça à l'époque, il y avait aucune logique de MCU derrière, ce qui est assez fou.
Alors tu prends la caméra puis tu filmes, je sais pas, on va voir.
Non mais ce qui est fou c'est qu'en revanche c'est un pur film de metteur en scène en fait. C'est que un mec qui est là pour raconter je sais même pas s'il avait un kiff sur Spider-Man, mais c'est que un film de metteur en scène. C'est-à-dire que c'est, il y a quasiment pas de dialogue, c'est
et
que
ma toile
sur...
tu l'aimes ma toile. Waouh, la nouvelle vague.
Non mais c'est que par l'image que ça passe et je trouve ça assez dingue. Et pour avoir vu les quelques films que je vois aujourd'hui, donc les Black Panther ou genre les Gardiens de la Galaxie, où en revanche il faut constamment qu'on m'explique par le dialogue ce qui se passe, je trouve ça assez fou que bah il y a 17 ans il y a un mec comme genre les premiers Batman de Tim Burton, c'est que par l'image que ça passe, quoi.
Alors moi j'ai quelque chose à dire sur ça, je suis complètement d'accord et je crois que ce qui donne cet effet, c'est qu'effectivement c'est un film de metteur en scène et c'est pas un film qui rentre dans une logique.
Studio, ouais.
C'est ça. Et en fait, en regardant, comme je me suis fait les trois d'affilée, j'ai fini par Homecoming et dans Homecoming en fait et dans les Marvel en général, il y a une espèce de volonté que tout soit réaliste.
Ah oui,
c'est des super-héros, machin, mais est très très réaliste.
Et
tout
puis il faut
est...
que ça s'emboîte.
Voilà, et en fait, du coup, avoir fait les trois d'affilée comme ça, à la fin, j'ai repensé à notre Spider-Man, et je me suis dit, mais en fait, il relève vraiment des vieux films, en fait. Bah ça fait vraiment genre vieux cinéma, mais pas dans le sens péjoratif, c'est juste le vieux cinéma où on
c'est
développe des personnages
quoi.
Avec une vraie dramaturgie des personnages,
en fait,
et pas d'action.
Mais surtout, le film se suffit à lui-même.
Ouais, c'est ça.
T'as pas Après, besoin d'avoir vu ceux d'avant ou ceux d'après pour voir où ça s'insère. C'est Spider-Man là. Alors t'as eu ceux d'après, mais
oui, et puis la façon de raconter.
On parle de plein d'autres films, on parle de plein d'autres références. C'est peut-être le moment de balancer des petites recommandations. Raph, est-ce que t'as une petite recommandation pour nous?
Eh ben oui, on va rester dans le Spider-Man parce que outre le Spider-Man 2 et 3 que je vous conseille d'aller voir, qui sont un peu nazes mais rigolos à regarder. Tout simplement Spider-Man Into de Spider-Verse, qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation et qui est extraordinaire. C'est un truc de fou. Je l'ai regardé un petit peu en me disant oh ça va être mignon, rigolo. C'est extraordinaire, c'est vraiment un film d'animation drôle, mais d'un drôle que j'ai rarement vu. Hyper beau, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait là-dessus. C'est léché, c'est bien foutu, ça reprend le Spider-Man d'une manière hyper innovante, hyper fraîche. C'est extraordinaire. Franchement, c'est que en fait que vous aimiez un les super-héros, deux Spider-Man,
l'animation
ou pas, c'est que vous aimiez ça ou pas, ces trois trucs ou pas, c'est un truc qu'il faut voir parce que c'est hyper bien fait. C'est beau, c'est le scénario, il est hyper bien ficelé, c'est top quoi. Et Florian, tu peux peut-être toi en parler parce que c'est quand même
Ouais, moi bah, je suis complètement d'accord, c'était Marco à la base, donc
je suis désolé,
non, il y a pas de souci.
Mais vraiment
ouais, je suis complètement
d'accord.
Peut-être
te couper le micro du coup.
Ouais, pardon, désolé. Je suis complètement d'accord, c'est vraiment pour tous les gens qui pensent que les trucs animation c'est toujours la même chose, c'est vraiment assez ouf. L'histoire est pas du tout incroyable, c'est une histoire assez attendue et on sait à peu près qui est qui dans l'histoire, et c'est pas la question. La question c'est comment on présente Spider-Man, comment on présente les Spider-Man, et comment on a tout le temps des idées de narration tout le temps, c'est vraiment top.
Quoi.
Et qui est jamais réutilisé plus tard en fait. Ça qui est ouf, c'est que ils ont une idée, ils la font sur une séquence et puis après ils passent, et puis ils ont une nouvelle idée et puis ils l'utilisent sur une séquence et puis ils passent, et c'est assez génial, je trouve.
T'as quand même peut-être une autre reco pour
J'ai
nous.
Une petite reco, je me fais un peu choper, donc si tu veux donner la tienne pendant que je en cherche une autre.
Moi je vais faire une reco qui va venir contredire ce qu'a dit Raph au début de sa reco à lui, qui m'a fait un peu frissonner quand il a dit que Spider-Man 2 était bof. Je pense que Spider-Man 2 est un film absolument extraordinaire, bien mieux que le premier. Spider-Man 2 c'est je pense que c'est vraiment le chef-d'œuvre de Sam Raimi, avec Evil Dead 2 aussi.
Evil Dead 2, oui, c'est normal.
Evil Dead 2 qui est monstrueux, mais Spider-Man 2 qui est extraordinaire parce qu'une fois qu'il a anticipé, une fois qu'il a fait toute sa présentation de personnage, il peut continuer son travail justement de pure mise en scène. Et surtout, on est en 2004 quand il fait Spider-Man 2, donc on est encore plusieurs années avant le Batman Begins, le Dark Knight, tout ça, où il va déjà être en train, dès le deuxième épisode, de réfléchir sur le héros qui veut plus être héros, ce que c'est 3 ans après. Enfin, il est déjà en train de faire un film post 11 septembre. C'est un film qui est monstrueux, d'une intelligence folle, et qui a surtout une des plus grandes scènes d'action qu'on verra de notre vie, je pense, en termes de découpage, qui est la scène du métro, qui est monstrueuse et qui vraiment qui est un des sommets de cinéma et dont je me souviendrai toute ma vie quand je l'ai vu, quand je l'ai vu en salle. Et du coup, je te vois, toi qui lèves ton doigt.
Oui, merci. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur les films pré-Nolan, etc. Qui du coup, le Spider-Man 2, il est pas sombre comme après. Il y a eu un moment où tous les films de super-héros étaient un peu genre sombre, un peu désaturé, un peu.
Bah oui.
On va vous montrer un peu la déchéance du super-héros, et en fait là c'est juste un personnage qui se questionne sur lui-même, mais toujours dans une esthétique qui suit le 1.
Exactement.
C'est assez kiffant de voir ça plutôt
donc c'est
que...
juste l'interrogation, c'est pas genre le monde s'écroule avec moi quoi.
C'est ça, et The Amazing Spider-Man c'est ça, il est dans cette esthétique qui est en fait du coup complètement maniériste, alors qu'elle a genre moins de 10 ans de film un peu sombre, le personnage est pas bien, l'image elle est désaturée, et tu fais on s'en branle quoi.
T'es un ado, mec, calme-toi.
Ouais, calme-toi, et en vrai, de toute façon, la trilogie des Dark Knight elle est passée par là, donc n'en faites pas d'autres.
Un des meilleurs, enfin pas plot twist, mais un truc de scénario à la fin du 2, quand le méchant redevient gentil, et que en gros, la méchanceté du film a échappé au propre méchant qui est obligé de s'allier au gentil pour battre, enfin c'est un truc de dingue en fait. Franchement, je trouve que Spider-Man 2 c'est un très 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 grand film, donc voilà. Et du coup,
Spider-Man 2, pardon, sur PlayStation 2 était un jeu extraordinaire sur lequel
j'ai joué à Spider-Man sur PSP. Qui se souvient de la PSP?
J'avais la PSP.
La peu se peut, comme on disait dans South Park.
Je pense que c'était l'achat le moins rentable de ma vie. C'était une console de merde.
C'était L'Heure est Grave. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de bande dessinée. On parlera On a parlé de Spider-Man. On parlera la semaine prochaine de Tom-Tom et Nana. Et on se retrouve en revanche dans un mois, le 31 mai, pour parler cinéma. Et on a parlé de chef-d'œuvre.
Là, on vous parle d'une surprise.
On vous parlera
d'une
surprise.
D'un chef-d'œuvre.
D'un chef-d'œuvre, merci. Merci à toi, Raph, d'être venu.
Merci à toi, Gaspard. Merci à toi, Florian.
Merci à toi, Flo, d'être venu. On peut applaudir Flo.
Bravo. Merci.
Pour ta première.
Qui était une première. Flo qui vient de se faire dépister et qui va continuer de se faire dépister ce soir.
J'espère.
Tu restes avec nous, Flo, hein, dans 5 minutes. Et merci surtout à vous de nous écouter. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à lâcher le commentaire qui fait zizir.
Et à nous dire pourquoi l'heure regarde, c'est génial.
Exactement.
Ou que c'est de la merde, possiblement. Ouais. Et que vous faites que lire vos fiches Wikipédia.
Ou si vous aimez l'heure grave ou Buffy, par exemple.
Voilà, ça, pas 3 petits points au secours. Merci à Tatata Gaspard. Merci à
merci
maman.
Beaucoup.
On vous dit à la semaine prochaine. On vous fait des bisous.
Ciao. New York, let your body pop and let your feeling flow. Raise up. Step together and dive that funky soul. When I say Sagittarius, dive that funky soul. When I say Pisces, holler and dive your funky soul. When I say Gemini, dive that funky soul. When I say Capricorn, hell, dive your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, dive your funky soul. Can you drive that funky soul? Raise up, get yourself together, and drive your funky soul. Slaughter, get on up, get yourself together, drive that funky soul. Leo, get yourself together, and drive your funky soul. Aquarius, get yourself together, and drive that funky soul. Get yourself together, and drive that funky soul. We'll be right back.